Voilà, donc nous sommes dans les locaux d'Atrabil à Genève. Je suis avec Daniel Pellegrino et on va un petit peu parler du travail de Jason, donc un auteur nordique. Voilà. Donc Daniel, éventuellement, est-ce que tu nous dirais comment vous l'avez rencontré, comment est-ce que toute l'histoire a démarré?
C'est un truc assez simple. On a rencontré Jason il y a quelques années à Angoulême. Donc on était dans notre petit stand à Angoulême. C'était quoi en 96? En 98, je pense, quelque chose comme ça. On s'embêtait royalement. Et puis Jason est passé et on a commencé à discuter. On a échangé quelques livres. À l'époque, il publiait en Norvège un comics qui s'appelait Mio Mio, qui était vraiment un comics que lui faisait de A à Z, avec des histoires courtes, des histoires à suivre. Et puis voilà, comme on avait Bill Noir à l'époque, était un collectif, il nous a dit si ça nous intéressait éventuellement de publier des histoires courtes, choses comme ça. Donc il nous a donné quelques exemplaires de Mio Mio, et puis on s'est mis à les feuilleter. Le soir, on a montré ça un peu aux auteurs et aux autres personnes qui nous accompagnaient. Et c'est vrai que tout le monde s'est dit, mais sinon il y a un truc qui se passe. Et Jason a toujours été assez attiré par la narration sans texte. Il y avait quand même là un petit peu de texte dans certaines histoires, mais même avec le texte en norvégien, même en comprenant pas tout, on a vraiment eu un coup de foudre pour ce qui se dégageait de ces bandes dessinées-là. Donc dès qu'on est rentré à Genève, on l'a contacté et on s'est dit, mais voilà, on adore ce que tu fais, on aimerait bien publier cette histoire-là. Et cette histoire-là, en l'occurrence, c'était ce qu'on avait détecté comme étant une histoire longue en deux parties, qui était publiée sur deux numéros de Mio Mio, qui est devenu Attends en français. Et il n'y a pas énormément de texte dans Attends, mais il y en a quand même un petit peu. Mais même en ne comprenant pas le norvégien, on comprenait un peu ce qui se passait. Surtout, on était super sensible à sa narration, à sa grammaire, quoi. Donc voilà, on a traduit ça et on n'a pas été déçus. Et voilà, c'était le début des publications de Jason. Ce qui était marrant, c'est à l'époque où Atrabil était encore... on est toujours une structure assez modeste, mais à l'époque, c'était encore plus modeste que maintenant. Et il y a tout de suite eu une espèce d'accroche critique autour du travail de Jason. Et ça n'a pas été un best-seller, mais par contre, c'est vraiment un bouquin qui a été remarqué, quoi.
Quand tu dis donc 97, c'est ça, ça veut dire...
Je crois que c'était... Non, c'était plus tardif que ça. Je pense que c'était... C'était plus tardif que ça, faudrait que je regarde les dates, mais c'était un peu plus tardif que ça. Attends, c'était en 2000, ouais. Donc on a dû se rencontrer en 98, je pense. Ça a dû prendre un petit peu de temps.
C'était le tout début d'Atrabil.
C'était le tout début d'Atrabil, mais on avait quand même quelques bouquins, ouais. Et puis, on n'était pas un million non plus à faire ça à Angoulême, quoi. Enfin, il y avait les gens habituels, l'association Cornelius, les requins, tout ça. Mais Frémok. Mais je pense qu'il a dû sentir aussi que chez nous, il y avait peut-être un peu plus de d'écho avec ce qu'il faisait, quoi. Et puis, je me demande si c'était pas carrément en 98, voire en 99. Parce que Comics 2000 n'était pas très loin, puisqu'il il a, je crois que c'était sa première publication en français, c'était Comics 2000. Mm-hmm.
Voilà. Peut-être que... Est-ce que tu penses qu'ils sont venus vers vous parce que vous étiez déjà très axé sur le récit et que manifestement, c'est un des...
C'est possible, je pense surtout, c'est que, moi ce que j'imagine c'est qu'à l'époque il a distribué aux quelques éditeurs présents, il y en avait quand même beaucoup moins maintenant, je veux dire, il y a eu un essor sur les 10-15 dernières années dans la petite édition, à l'époque on était beaucoup moins, et puis je pense que c'est nous qui avons sans doute réagi le plus vite, quoi, aussi, parce que nous on voyait, c'était vraiment, ça correspondait exactement aux choses qu'on avait envie de publier, quoi, c'est-à-dire de la bande dessinée très narrative, enfin très axé sur la narration et sur le potentiel de la bande dessinée et en même temps quelque chose d'assez original, enfin on est toujours à la limite de la recherche quand même dans Jason, parce qu'il se permet des ellipses incroyables, enfin voilà, il joue beaucoup avec le, disons le... Enfin, je crois que c'est quelqu'un qui fait vraiment confiance au lecteur, hein, Jason. Mm-hmm. Un truc qui est vachement fort chez Jason, c'est l'espèce de paradoxe qu'il y a entre son trait assez raide, ses personnages complètement inexpressifs et le fait que en général ses histoires sont porteurs d'émotions assez fortes. C'est-à-dire qu'il arrive à être vraiment très touchant, très émouvant, avec, avec des outils assez austères, un trait assez dur, enfin dur, Disons, c'est pas un trait qui flatte l'œil, quoi. Il est plus dans l'efficacité narrative, mais tout ça mine de rien. Donc, moi, c'est ça, un des trucs que j'adore chez Jason, c'est qu'il y a quelque chose d'apparemment très modeste. Et derrière, c'est hyper riche, hyper intelligent et aussi très émouvant. Que ce soit cette histoire dont on a parlé de chute, que ce soit à temps et aussi Mauvais Chemin, par exemple, qui est une histoire d'amour impossible où il joue. C'est aussi une des autres particularités de Jason et c'est aussi un truc qui m'a beaucoup plu chez lui. C'est sa façon de recycler des personnages hyper populaires, enfin des personnages qui sont devenus populaires, voilà, qui appartiennent presque au grand public et qui sont vraiment des figures du cinéma fantastique et du cinéma science-fiction. Et il joue avec Darth Vader, il joue avec Frankenstein, un peu à la sauce James Whale des années 30. Il joue avec des personnages comme ça mythiques du cinéma fantastique, le loup-garou. Il a fait des choses avec des zombies, enfin voilà, il joue avec cette thématique là et en même temps c'est pas du tout de la bande dessinée d'exploitation où c'est vraiment voilà. Et ça c'est assez rigolo ce décalage là et ouais, c'est quelque chose qu'il a vraiment cultivé aussi bien dans des histoires courtes que dans des récits plus longs et du coup une espèce de petit, pas de Panthéon, mais comme ça, de petit monde Jason. Vraiment, on retrouve ces personnages qu'on recroise en plus d'une histoire à l'autre. Voilà.
Particulièrement dans Le Secret de la Momie, non ?
Parce que Le Secret de la Momie, oui, c'est vraiment une compile d'histoires courtes qui n'ont vraiment aucun lien entre elles à première vue. Mais on retrouve effectivement des figures avec lesquelles il joue beaucoup. Ben, en couverture, là, il y a une momie, un homme des cavernes et Elvis Presley. Je crois qu'il y a aussi dans les rabats, il y a un vampire, il y a des zombies. Et dans tout le bouquin, en fait, c'est très présent, ça, effectivement. Ouais. Ce jeu, il y a des extraterrestres, ce jeu avec toutes ces figures-là. Ouais. Donc il y a à la fois un jeu de référence, on va dire, un jeu de clin d'œil et complètement un jeu de... Enfin, je veux dire, il arrive à faire des histoires d'amour avec Van Helsing qui court après Dracula. Donc il y a vraiment un truc de détournement, en fait. Voilà. Non, mine de rien, moi, je trouve son univers... vraiment très complexe, très complexe.
Et graphiquement, on peut dire que c'est très sobre, le gaufrier, c'est toujours un...
Ouais, il s'en tient, complètement, ouais. Mais c'est hyper efficace et en même temps, il y a pas d'effet de manche, donc il n'y a pas d'esbrouf. Par contre, il y a une vraie connaissance du médium qu'il utilise. Bon, après, il y a ce truc de la bande dessinée animalière, d'avoir pris... Pour ces personnages des visages d'animaux. Je crois qu'il le doit, entre autres, aussi bien à Karl Barks. Il faut savoir qu'en Norvège, le paysage de la bande dessinée est très particulier. Et les deux choses qui cartonnent en Norvège, c'est le fantôme, donc un personnage de Lee Falk qui a été inventé il y a presque 80 ans, voilà. Une espèce de vengeur masqué qui vit dans une île, que les gens continuent à faire pour la Norvège. Et Donald Duck. Donc voilà, c'est très spécifique au paysage, au marché norvégien. C'est vraiment des trucs que les gamins lisent, comme en Italie il y a Dylan Dog ou des choses comme ça, qui est un truc très italien. En Norvège ils ont ça, quoi. Et bon, je pense évidemment que Karl Barks a influencé Jason. Maintenant, il y a aussi une influence plus tardive, mais quand même assez marquée, de gens comme Lewis Trondheim ou Fabio. Ils se revendiquaient pas mal de l'univers de Fabio et de Trondheim.
Sinon, donc, on parlait des thématiques abordées par Jason. On retrouve souvent une espèce d'impossibilité à vivre en couple, à avoir un couple qui dure dans le temps.
Ouais, c'est souvent des histoires d'amour impossible, d'amour contrarié, des histoires d'amour qui finissent mal. Non, lui, il a vraiment creusé il a pas mal creusé ce sillon-là dans ses histoires, donc des espèces de variations sur le couple, sur l'amour impossible. C'est vrai que ça se termine toujours assez mal, et puis il y a souvent ce qui se dégage de ces histoires, c'est toujours quelque chose de très mélancolique, en fait, une espèce de tristesse. Mmh. Il y a pas mal, il y a Attends, mais dans d'autres de ses histoires courtes, il aborde pas mal le monde de l'enfance aussi, avec un regard et mélancolique et sans doute aussi assez nostalgique. Mm-hmm.
J'ai lu des choses, on disait qu'il y avait une forme de cynisme. Je suis pas très d'accord. C'est dur parfois, mais je trouve pas ça cynique.
Cynique, non. Pour moi, cynique, non, pas du tout, non. Non, je pense pas qu'il y ait du cynisme. Il y a parfois un peu d'ironie, mais je crois pas qu'il y ait du cynisme, non. Moi, je crois qu'il y a encore pas mal de, il y a encore pas mal de magie, en fait. Moi, je pense que Jason, il a pas oublié l'enfant qu'il a été. Et c'est aussi pour ça qu'il joue avec, des personnages qui ont dû peupler son enfance, quoi. Que ce soit les super-héros ou les personnages les grands personnages du cinéma fantastique. Et je pense qu'il a toujours un regard braqué sur ces années-là et il l'aborde assez régulièrement, quoi. D'ailleurs, même, par exemple, dans sa bibliographie, il y a un livre qu'on a publié qui est assez différent, que c'est le Cher de Fer. Et donc, qui est une espèce de... Enfin, qui est une espèce de quai, un roman noir, un livre d'enquête qui fait penser un peu à Edgar Allan Poe et à Agatha Christie, qui a un déroulement assez classique, après qui creuse un petit peu, si on essaye un peu de gratter dans le livre, qui égratigne un peu justement la bourgeoisie norvégienne, et cette espèce cette idée qu'on peut peut-être tous permettre, qu'on est, enfin sans être Dostoïevski, hein, mais qu'on peut tous permettre qu'on est riche et puissant. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est très lié à son enfance, parce que cette histoire-là, il l'avait entendue enfant à la radio. Ça a été monté en pièce radio et c'est quelque chose en fait qu'il a habité pendant toute son enfance et qu'il a jamais oublié. Et jusqu'au moment où il a décidé carrément d'en faire un livre. Donc même si apparemment c'est un bouquin qui est un peu à part dans sa biographie, on retrouve une partie de ses thématiques et on retrouve une fois de plus quelque chose qui est très lié à l'enfance. En plus, le livre est assez verbeux par rapport à ce qu'il fait dans ses autres bandes dessinées qui sont très... qui sont quasi dénués de texte. Là, par contre, c'est beaucoup plus verbeux. Mais il y a c'est complètement cohérent dans son univers. Et c'est aussi un truc qui fait que... Enfin, un truc auquel nous, on tient beaucoup, qui est de suivre un auteur vraiment sur le long terme. Et je pense que d'autres auraient pu être un peu surpris par ce travail-là, qui était moins proche de ce qu'ils faisaient d'habitude. Et voilà. Mais nous, on avait vraiment envie de faire quelque chose sur le long terme avec Jason, donc c'est pour ça qu'on a publié le Cher de Fer.
Là, il y a quoi, 6 ou 7 livres de
Je ne sais pas en tête, là, mais je pense qu'il doit y en avoir 6 ou 7, ouais. Tout à fait. Ouais.
Alors, vous n'êtes pas les seuls à faire du Jason en francophone. Est-ce que vous auriez pu tout faire?
Quasiment, je pense, ouais, quasiment. Moi, il n'y aura pas grand chose sur laquelle j'aurais craché. Ouais. Après, lui, c'est vrai qu'à un moment, il a eu une envie de. Parce que je pense, depuis la Norvège, voir les albums que nous on appelle des formats classiques ou 48 pages cartonnées couleur, je pense, depuis la Norvège, quelque chose qui le titillait. Puisqu'il a grandi aussi en lisant Tintin et des choses comme ça. Donc je pense qu'il avait cette envie de se frotter à ce format-là, quoi, que nous, de notre côté, justement, on a essayé de repousser et de faire quelque chose de différent. Lui, il fait partie des auteurs justement qui ont envie de se réapproprier ce format-là. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'à première vue, on n'abordait pas. Et donc, il avait vraiment envie de faire du cartonné couleur dans un format imposé. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il a essayé un peu chez différents éditeurs. Et puis, par hasard, à San Diego, il est tombé sur Carabas. Donc il s'est dit, mais c'est un signe du destin que je tombe sur un éditeur français qui veut m'éditer et que je sois à San Diego pour trouver ce mec-là. Donc du coup, et puis comme c'est un type assez fidèle et assez carré, ben voilà quoi. Il s'est dit à un moment qu'il ferait des récits couleurs cartonnés, il les a fait chez Carabas. Il nous a dit que si jamais il refaisait un truc sur noir et blanc, il le referait chez nous. Mais là, il est parti chez un truc assez un peu plus formaté que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et moi, il n'y a pas grand-chose. Il y a des bouquins, certains livres qu'il a publiés que je trouve meilleurs que d'autres, mais il a fait une espèce de trilogie comme ça, polar, que moi je trouve vraiment excellente. Voilà. Et ce qui est marrant aussi, c'est voir qu'en France, il a une espèce de reconnaissance critique, mais qui reste un peu confinée à quelque chose d'un club, quoi. Alors, je dis pas qu'aux États-Unis c'est un carton sans nom, mais il a une vraie reconnaissance aux États-Unis. Il est publié chez Fantagraphics là-bas, et c'est vrai que ils ont publié aussi quasiment tous ses bouquins maintenant, et que c'est devenu quelqu'un qui est cité par d'autres auteurs comme étant une source d'influence. Et j'ai l'impression qu'il a réussi à imposer nettement plus sa marque aux États-Unis, hélas, qu'en France.
Ouais. Pour vous, Jason, ça doit être un des premiers auteurs non genevois, parce qu'à la base, à Trabil, c'était plutôt être une vitrine pour les auteurs genevois.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on s'est constitué pas mal sur le terreau genevois parce que on avait envie de représenter ces gens-là, et puis surtout que voilà, c'est des gens qu'on avait rencontrés avant avec diverses expériences. Et puis qu'on disait que c'était dommage que tous ces gens-là soient pas publiés mieux que ça et qu'ils soient obligés de s'exporter. Donc c'est un peu autour d'un petit groupe d'auteurs genevois qu'on a monté à Trabil. Puis après, on va dire qu'on s'est pris au jeu et puis on a vraiment eu envie d'être un éditeur à part entière. Et Jason, c'est effectivement un des premiers auteurs avec lequel on a fait des livres. Dans le Bill Noir, je pense assez tôt, on a rencontré des auteurs en guillemets étrangers. Et Jason, effectivement, c'est. D'ailleurs, moi, je trouve pour moi, Jason, enfin, Attends, c'est vraiment une pierre angulaire dans le catalogue d'Atrabile, quoi. Pour moi, c'est vraiment un album représente vraiment un tournant, au même titre que Pilule Bleue, par exemple. C'est vraiment un moment où on a fait une rencontre qui a compté, où on a eu l'impression vraiment de découvrir et de faire découvrir un auteur et une œuvre vraiment super importante, et c'est aussi un moment où on s'est senti un petit peu plus devenir éditeur. Donc, ouais, c'est Jason, c'est quelqu'un que je suis vraiment fier d'avoir publié.
Est-ce que donc 2007 ça commence à dater un petit peu? Est-ce qu'il y a des projets avec Jason qui se profilent?
Non,
Je sais
hélas
pas.
pas, non, 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 là il est vraiment parti sur ses livres en couleur, donc je crois qu'il est relativement content de ce qui se passe chez Carabas. Puis c'est quelqu'un, voilà, comme je disais une fois de plus, qui est assez fidèle. Donc maintenant qu'il s'est branché chez Carabas pour tous les livres en couleur, il fait ses livres en couleur chez Carabas. Voilà. Je désespère pas de refaire des livres avec Jason, mais c'est pas prévu pour l'instant.
Sa collaboration avec Fabien Vallée, c'est pas chez
C'est chez Glénat, ouais. C'est chez Glénat, ouais. Ouais. Je crois que ça l'amusait tout d'un coup de. Moi, c'est un mec vraiment particulier et c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux de son travail, amoureux de ce qu'il fait, et je vais pas dire psychorigide, mais qui a une vision très claire, très droite de ce qu'il veut faire, et qui a pas du tout envie de mettre un pas de côté. Donc, je crois qu'il a fait avec plaisir sa collaboration avec Velman, on en a parlé un tout petit peu, mais je crois qu'avant tout, ce qu'il préfère, c'est travailler tout seul et c'est mettre en image ses propres histoires. Donc, je crois qu'il était content de l'expérience, mais pas plus que ça non plus. Même si c'est un livre qui a eu quand même pas mal de. Qui a été assez bien éclairé par la presse, que je pense qu'il a eu son petit succès, toute proportion gardée. Mais par exemple, c'est vrai qu'il avait été contacté par le cinéma, par exemple, ponctuellement, pour faire des choses. Donc, je sais qu'il a vendu les droits de J'ai tué Adolf Hitler, mais je sais plus si ça va devenir un film d'animation, un film live. Mais par contre, il s'en occupe pas du tout. Les droits sont vendus et lui, il s'en lave les mains. Et il avait été contacté par des producteurs de cinéma pour écrire un film de zombies avec un. Je crois que c'était un des producteurs allemands qui avait plutôt un beau palmarès. Donc ça avait pas l'air d'être n'importe quoi, les gens qui étaient derrière ce projet. Mais lui, ça l'intéressait pas du tout de travailler pour le cinéma, en fait. Alors qu'on aurait pu se dire, pour quelqu'un d'autre, ça peut être une opportunité à tous les niveaux, aussi bien au niveau financier qu'une expérience, qu'un truc dans son CV, n'importe quoi. Mais lui, non, ce qui l'intéresse, c'est d'être derrière sa planche à dessin et c'est de dessiner ses histoires. Donc du coup, il a refusé de le faire, quoi.
C'est pas si étonnant, parce que quand on voit à quel point le médium BD sert sa manière de faire, je trouve que c'est assez. Ça éclaire bien le travail.
Oui, complètement. Ouais. De quelqu'un qui doit être assez obsédé, je crois, par le. Et pourtant, c'est quelqu'un qui adore le cinéma. Il a un blog qui est assez rigolo, qui s'appelle Cats Without Dogs, et dans lequel il parle de ses lectures. Et il y a vraiment des choses à découvrir à part ça. C'est assez rigolo de voir un peu de quoi sont constituées ses influences, qu'il y a pas mal de films noirs. Il y a beaucoup de cinéma, en fait. Il parle très souvent de cinéma. Donc, c'est quelqu'un qui mange la pellicule. Qui lit beaucoup aussi, qui adore des gens comme Raymond Carver ou Fante ou des écrivains américains. Donc c'est vrai qu'il a pas mal de ces influences qui sont et cinématographiques et littéraires et tournées vers les États-Unis. Et il y parle assez peu de bande dessinée en fait. Mais par contre, c'est intéressant de voir ce qu'il nourrit et de voir que tout ça est très cohérent en fait après. Voilà. Qui se nourrit aussi bien de trucs vraiment complètement ancrés dans les genres, que ce soit Raymond Chandler, des gens comme ça, dans le polar, et qu'en même temps, il a vraiment un intérêt pour des choses un peu décalées. Par exemple, c'est un fan absolu de Kaurismäki. Et je pense que c'est pas étonnant parce qu'il y a quelque chose de très proche dans l'univers de Kaurismäki et dans l'univers de Jason. D'abord par le fait que les paroles sont très rares, qu'il y a à peu près aussi peu de mouvements de caméra dans les films de Kaurismäki, qu'il y a de variations dans le Gaufrier chez Jason. Donc il y a vraiment un gros parallèle, je trouve, entre les deux. Voilà. Après, peut-être dans les thématiques, c'est un peu différent, et il faudrait peut-être encore creuser un peu là-dedans, quoi. Mais voilà, je trouve qu'il y a. Après, tout ça, c'est peut-être un peu simple et un peu cliché de ramener tout ça à ça, mais c'est vrai qu'il y a sans doute le côté un peu scandinave là-dedans.
Ouais.
Ouais, le côté. Mais après, c'est vraiment le cliché du grand. Mais en même temps, Jason correspond un peu à ça. le grand norvégien taciturne qui parle peu, mais c'est complètement jasant. Il faut lui, enfin voilà, faut avoir discuté, enfin avoir passé un quart d'heure avec lui pour voir que des fois c'est, faut avoir tenté de discuter avec lui. Moi j'ai jamais eu trop de problèmes, mais effectivement il faut pas, il faut savoir que la parole est assez rare et pesée quoi. Donc c'est vrai que on peut poser une question à Jason et sa réponse ça sera non, voilà, et qu'il va pas se sentir obligé de détailler plus que ça quoi. Mais voilà.
Voilà, ce qui reste à faire, c'est de lire ses livres.
Complètement, ouais, complètement. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment... c'est un regret, je pense, je trouve, avec Jason, c'est qu'avec Atan et Chute, on a senti que, bah, voilà, que c'était un auteur qui était découvert. Et puis après, tout ça, le soufflet, il a un peu retombé. Alors, faute à la surproduction, faute à des choix éditoriaux. Effectivement, est-ce qu'être chez Carabas, ça l'a desservi, peut-être, parce que... le catalogue de Carabas peut-être ne correspond pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un auteur qui a été un peu... dans les pays francophones, qui a été un petit peu oublié. Donc qui reste... c'est, pour moi, c'est vraiment un auteur culte, dans le sens où c'est un auteur qui est peu lu. Mais par contre, les gens qui le lisent et qui l'apprécient lui vouent vraiment une admiration, à mon avis, complètement méritée. Et je regrette que le travail de Jason n'ait pas pu avoir plus de reconnaissance publique, comme aux États-Unis par exemple.
C'est peut-être à venir.
Espérons-le.
Ouais. Et ben merci Daniel pour toute cette riche information.